le sujet d'aujourd'hui, c'est l'ordre du nouveau monde. Alors le nouveau monde, il a quelque chose de particulier. Si vous regardez la géographie des deux Amériques par rapport à l'Europe, il y a quelque chose de radicalement différent dans les Amériques, c'est que la chaîne de montagnes est nord-sud, pour ainsi dire continue, hein, les Rocheuses et la cordillère des Andes, en gros, ça s'arrête dans l'isthme de Panama et ça reprend jusqu'à la Terre de Feu qui est Rocheuse. Alors qu'en Europe, c'est tout le contraire. Bon, les Pyrénées, c'est un peu de guingois, mais en gros, la grosse masse montagneuse, donc des Alpes, qui se continue en Russie par l'Altaï et tout ça, en gros, c'est horizontal. Hein. Je vous signale que... en gros, les chaises caucasiennes, enfin, etc., c'est horizontal. Bon, les Pyrénées, c'est à 45 degrés. Et puis, en gros, enfin, le reste, c'est des plaines... L'Oural, on a mis l'Oural géographiquement parce qu'il fallait bien séparer l'Europe de l'Asie. Mais en fait, l'Oural, c'est pas très épais. Hein. Les monts de l'Oural, ils montent à 600 mètres au maximum. Hein. C'est donc pas un... c'est pas des chaînes très importantes. Hein. Oui, ça c'est à 600, peut-être 1000, peut-être pour certaines pointes. Mais enfin, dans l'ensemble, c'est pas une grosse barrière. Hein. Ce qui a permis d'ailleurs aux invasions, on va y revenir, aux invasions donc, qui sont venues de l'Est, c'est pas les monts de l'Oural qui les ont arrêtés. Hein. Il y aurait eu la Rocheuse, quelque chose comme Jean Rocheuse, les Andes, ça les aurait arrêtés secs. Hein. On ne passe pas à 7000 mètres avec des chevaux et des chariots. Hein. Donc le mont de l'Oural, donc voilà, ça c'est quelque chose de très important. Donc, dans le continent nord-américain, sud-américain, la chaîne montagneuse qui conduit donc le magnétisme terrestre est nord-sud et permet donc aux forces arimaniennes de s'exercer avec toute leur puissance. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout les forces arimaniennes, vous connaissez ? Eh bien voilà, donc j'ai un livre avec Lucifer Ahriman qu'il faudra que vous lisiez absolument pour comprendre ça. Eh bien, ce sont les adversaires, Ahriman et Lucifer, ce sont deux adversaires de l'humanité, donc, qui ont pour but de décrocher complètement l'humanité de la Terre et de ne plus la faire incarner. Donc, ils s'y prennent constamment par des tas de moyens différents et opposés, mais leur but, c'est d'arracher l'humanité définitivement à la Terre. Et en ce qui me concerne pour le sujet d'aujourd'hui, donc les forces arimaniennes s'exercent en plein dans ces deux continents, américains, nord et sud, et ça façonne les gens et le pays. Hein. D'ailleurs, l'Amérique du Nord, aujourd'hui, est dans un arimanisme, comment dirais-je, considérable, bon, important, enfin.
Il y en a un qui est pire que l'autre.
Qui est plus fort que l'autre?
Pire.
Bon, Ahriman, oui, il est plus méchant, si on veut, d'un certain point de vue. Lucifer veut nous arracher complètement de la planète pour ne plus que l'on se réincarne de façon qu'on reste dans le monde spirituel en permanence, mais où il n'y a aucune évolution possible. Hein, comme un enfant qui serait gardé en nurserie, là, au jardin d'enfants, en permanence. Si vous gardez un enfant en permanence, bon, au bout d'un certain temps, son évolution est complètement bluquée. C'est ce que souhaitent les forces lucifériennes. Les forces arimaniennes, c'est tout le contraire. Ils veulent qu'on ne quitte pas la Terre, mais d'une façon tellement dense que finalement, on n'est plus capable de s'incarner vraiment, qu'on se densifie complètement et qu'on se pétrifie complètement. Et actuellement, si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, ils sont à l'œuvre, ils sont fortement à l'œuvre parce que on va vers une concrétion de la société dramatique. Enfin bon, je ne vais pas me lancer dans la politique, mais il suffit de regarder un petit peu autour de soi. On est complètement mécanisé. Hein. Regardez ne fût-ce que l'évolution du portable. Bon, le portable, alors on nous présente toujours le côté pile, hein, ou face, je ne sais pas comment on dit, enfin le beau côté. Hein, alors, bon, bientôt on va payer avec le portable, c'est plus de la SF, c'est de la réalité, hein, on en parle tous les jours. On va payer avec le truc, alors tous vos papiers d'identité seront dedans. Et puis un jour, ce fameux portable sera l'engin fondamental, il va gérer votre compte, il va tout gérer. Alors on va vous dire, mais si vous le perdez ou si quelqu'un vous le vole et tout, il a tout en main, et nanana. Alors donc, on va vous présenter ça comme quelque chose de super bien. On va vous greffer une puce électronique, comme ça vous ne la perdrez pas. Et vous pourrez passer tous les contrôles, voilà, etc. Et alors, une fois qu'on aura notre... cette puce greffée, c'est une réalité, hein. c'est en train de se faire, hein. Croyez pas, je déraille pas, hein. Les veaux et les cochons sont tous des puces, les enfants, les bébés ont des puces maintenant, vos voitures ont des puces, les vêtements que vous avez ont tous des puces, ça vous le savez pas, mais par exemple quand vous achetez une chemise, il y a une chance sur deux qu'il y a une puce dedans qui sert à, non c'est pas nominal, mais ça sert aux marchands de savoir combien de chemises sont portées à Paris, combien, je sais pas où, combien de temps ça dure, enfin bon, ils font des tas de calculs là-dessus. Bon, pour l'instant, c'est purement commercial. Mais, oui, c'est tout à fait petit, on le met... alors, dans vous achetez une voiture, il y a une puce, maintenant, on va dire, ah, ben, c'est le puce anti-vol, comme ça, si elle est volée, on va la retrouver. Bon, c'est là, tout a un bon côté, bien sûr.
Et donc, Obama a signé la génération de Very Cheap obligatoire de 2013 aux États-Unis.
Oui. Bon, ça se fera peut-être pas aussi vite que ça, mais le truc est en cours. Hein, est en cours. Donc là, vous voyez, on va rentrer. Donc le but, en gros, c'est d'être un rouage dans un immense ordinateur qui gère toute la planète. Et. Vous voyez, donc ça c'est l'expression des forces arithmaniennes. Bon, je reviens au sujet, parce que sinon on va parler d'autre chose. Donc, j'insiste sur le fait que ce continent nord-américain était déjà découvert par des moines du... Tiens, tu as toutes ces chaises qui t'offrent leur merveilleuse place, voilà. Et donc, les moines irlandais connaissaient très bien... par les navigateurs suédois et norvégiens, connaissaient très bien l'existence de l'Amérique du Nord. Et pour justement des raisons de ne pas autoriser les forces arimaniennes à faire irruption trop tôt en Europe, eh bien, cette voie a été fermée. Bon, oubliée, si vous voulez. Enfin, maintenant, on est en train archéologiquement, de découvrir que ça existait. Donc, on sait très bien que les Vikings et autres, entre le 9 et 11e siècle, connaissaient l'existence de l'Amérique du Nord par le Canada. Ils y allaient par le Nord.
Et pourquoi on a évité cette voie
pour éviter justement que les forces arimaniennes viennent perturber les Européens trop tôt.
Parce qu'ils savaient que c'était arimanien déjà à l'époque.
Oui, je viens de te le dire.
Ah ouais.
Bon, alors attends, laisse-moi finir, parce que si on s'interrompt tout le temps, on n'ira pas loin. Donc, je reviens au fait que l'Europe s'est développée, l'histoire de l'Europe s'est développée, petit à petit, et... mais qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait de l'autre côté du monde? Pendant ce temps-là, l'Europe n'avait aucune conscience qu'il existait même quelque chose. Donc, qu'est-ce qui se passait de l'autre côté du monde? La culture sud-américaine, Inca, Maya, enfin, etc., qu'on appelle ces cultures pré-colombiennes, était basée sur quelque chose de passablement horrible et était complètement encerclée par les forces arimaniennes dont je vous ai parlé. Donc ces forces arimaniennes-là voulaient créer un contrepoids à l'Europe tel que toute incarnation physique ne puisse plus se produire. Il fallait complètement dégoûter l'humanité de s'incarner. C'était le but des pratiques que je vais vous décrire. Donc on en avait parlé, qu'est-ce qui est venu la dernière fois? Bon, quelques-uns, bon, on va recommencer un petit peu d'une autre façon. Donc ces cultures précolombiennes, en gros, qui étaient à peu près pareilles, bon, vous pouvez aller au musée, voir, là je vous ai fait tout un tas de photos de ce qu'on a. Salut chef, t'as une place, t'as tout un tas de places. Bon, on peut trouver au niveau de l'art, on peut le trouver beau, on peut le trouver pas beau. Enfin, moi je le trouve assez horrible. Enfin, c'est personnel, hein. Bon, maintenant on peut dire non, non, c'est très très bien. Bon, je discute pas. Moi personnellement, quand je le vois, j'ai un dégoût profond de ces pièces. Mais de toute façon, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on le regarde avec un œil purement artistique, si vous voulez. Voilà. Mais c'était pas du tout le but de ces représentations. Pour ces gens-là, c'était totalement différent. Leur but était religieux. Ces représentations voulaient dire quelque chose. Maintenant, on a l'impression que ben, c'est comme les dieux de l'Olympe, on y voit juste un conte de fées ou quelque chose comme ça. Mais pour les Grecs de l'époque, ça voulait dire quelque chose. Et en particulier, donc, pour les Incas, eh bien, ces représentations n'étaient pas juste une vue de l'esprit comme ça pour faire joli. C'était quelque chose de fondamental. Alors, donc, il y avait une religion qui était basée, qui était inspirée, donc, qui était inspirée par un esprit qui, en Atlantide, gérait toute l'Atlantide. Vous aurez un petit résumé, prenez pas trop de notes, enfin prenez des notes si vous voulez, mais je vous ai bien décrit ça dans ma petite histoire. Voilà, à la page 21 ici, ben, je vous donne le livre après, hein. Donc c'est bien, bien écrit. Donc en Atlantide, toute la grande civilisation atlantéenne était conduite par un esprit que l'on peut nommer Tao, dont les Chinois ont une certaine mémoire. Bon, donc le Tao, qui était un esprit juste, qui conduisait à ce moment-là l'humanité en Atlantide, donc l'Atlantide est le continent qui était avant ce qu'on appelle le déluge. Voilà. Donc l'Atlantide a sombré dans les eaux de l'Atlantique, et donc avec... elle l'a pas fait en 40 jours, elle l'a fait en un temps assez long, et donc cette catastrophe atlantéenne est restée dans les esprits sous forme de déluge. Voilà. Donc c'est avant le déluge, donc l'humanité était conduite par un esprit qu'on appelle Tao. Mais lui, il a dégénéré, donc quand on en arrive après le déluge et en Amérique latine, bon, il a donc... Plutôt à ce moment-là, il ne faut même pas parler d'Amérique latine, puisqu'elle n'était pas latine, elle était précolombienne, oui. Elle était amérindienne. Bon. Donc, ce grand esprit Taot, donc était encore... Donc, Taot, bon, leur prononciation est très difficile, et il... donc, c'est lui qui guidait cette civilisation... dégénérait de plus en plus. Et donc il y avait un autre esprit, toujours non incarné, et qui était visible pour les prêtres et les initiés du moment. Bon, Tezcatlipoca.
Tezcatlipoca.
Oui. Qui était donc, qui s'opposait à Taoc. Alors, bon...
Tlaloc.
Non, attends une seconde, s'il te plaît, c'est déjà difficile. Bon. Oui, attends, sois gentil, garde des interjections pour toi, parce que... bon.
Oui, non, mais...
Non, c'est...
Prendre les notes,
oui, mais écoute, excuse-moi. Mais ce n'est pas une conversation à deux, il y a d'autres personnes ici dans la salle.
Bon. Ah,
bon, ben voilà.
Tlaloc.
Bon. Donc... Je te dis, tu vas voir le livre, tout sera hyper bien marqué. C'est déjà assez difficile à expliquer parce que c'est compliqué. Et on a plein de choses à dire, donc il faut aller quand même un petit peu vite. Donc, J'en ai parlé durant 2 heures la dernière fois. Bon. Donc le Tao qui donne un esprit dégénéré, Taok, bon, peu importe comment ça s'écrit. Alors cet esprit-là, qui conduit donc la civilisation amérindienne, donc il a un opposé. Il a quelqu'un qui est quelque chose comme Yahvé, mais qui s'oppose à lui dans une certaine mesure. Bon, c'est donc un esprit relativement favorable. Bon, on va l'écrire Tetza, voilà, comme ça, ça simplifiera. Bon. Et un troisième esprit, donc, toujours invisible aux yeux mortels, donc on va appeler Quetza, voilà. Alors cet esprit-là, c'est le serpent à plumes. Il est vert. Je vous fais une petite référence sur Goethe et qui a écrit le conte du serpent vert.
Je l'ai lu.
Voilà. Bon, qui est un conte ésotérique. Et donc on parle d'un serpent vert. Alors, quel est ce serpent vert? Il s'apparente aux esprits de Mercure, Hermès. Donc là, vous revenez à mon livre sur Mercure et sur Hermès. Donc Hermès, lui, est un esprit guérisseur. Vous vous souvenez, il a un caducé avec 2 serpents. Voilà, on y vient. Et il est vert. Si on veut le colorer, il est vert.
Toutes les pharmacies l'ont.
Voilà, d'ailleurs, la preuve, elle est verte, la pharmacie. Donc, ce serpent à plumes, Quetzal, qui est vert, donc c'est le troisième interlocuteur qui est invisible. Seulement, lui aussi a dégénéré, ce n'est pas le bon Mercure, c'est un Mercure qui a dégénéré et qui se sert des forces de Mercure pour rendre les gens malades et non pas les guérir. Donc pour déclencher des épidémies et des maladies dont on meurt, des maladies mortelles, bon, qui des maladies de dégénérescence. D'ailleurs, il y en a dans notre société partout, hein, des maladies qui sont difficiles à guérir et qui sont plus ou moins mortelles. Donc on se retrouve avec ce serpent à plumes, lui, dégénéré. Donc voilà, 3 interlocuteurs, hein, un serpent à plumes vert, ici, qui est méchant, disons ça comme ça. Voilà, Taok, qui est le chef, et Tetza, qui est apparenté donc à Yahvé, mais un esprit de la lune, si vous voulez, Yahvé, esprit de la lune, mais qui est évidemment, qui n'est pas aussi, aussi bon qu'il devrait l'être. Donc ces trois êtres ne sont pas visibles aux yeux des mortels habituels. Mais ils guident la civilisation donc des Incas et autres. Est-ce que à ce stade-là, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ça va?
Non, c'est confus, parce que c'est les Aztèques, c'est pas les Incas.
Non, mais toute la civilisation nord-américaine...
Les Incas, c'est sud-américain.
Sud, pardon, autant pour moi. Sud-américain. Qu'ils soient aztèques, machin, inca, etc., on y reviendra. Bon, tout ce qui se passait là-bas, ça avait, en gros, petite coutume, ils faisaient des razzias des uns chez les uns et chez les autres, ils attrapaient tous les gens qu'ils pouvaient, et ils les faisaient monter sur... leur temple, là, dont vous avez multiples photos dans mon bouquin, c'est un escalier presque vertical. Quand vous allez là-bas, c'est assez impressionnant, parce que l'escalier, il est quasiment vertical, et il y a une, je ne sais plus combien de marches. Quand on arrive en haut, on souffle un peu. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en haut? Qu'est-ce qui attendait ces gens-là? Eh bien, une pierre, un hôtel avec une pierre bombée, là vous aurez une photo, hein, un autel avec une pierre comme ça. Voilà. On mettait le gars à la tête ici, les bras de deux côtés, les jambes là. Donc, qu'il soit bien bombé. Et hop, on lui ouvrait le ventre pour arracher le cœur. Voilà.
À quel endroit était-il?
Eh ben, tout le continent, Tikal et tout ça, enfin bon, on retrouve ça là-bas en grand nombre. Bon, avec des variantes selon les populations, mais en gros, c'était ça. Donc, on sacrifiait les individus en grand nombre, le sang coulait le long de ces marches, et voilà ce que les pratiques de l'époque. Depuis fort longtemps, plusieurs millénaires avant le Christ, donc on est loin de Christophe Colomb, on est bien loin de ça. Donc les populations se changeaient, les cultures se changeaient, mais ça n'a pas d'importance.
Je sais que c'est le 14e siècle.
Je te dis que c'était avant, écoute-moi bien, c'était avant le Christ, justement, on y vient. Bon, donc on est loin, je dis, du Christophe Colomb, on est bien là, bien avant. Bon, et ça se perpétuait pendant des millénaires. Bon. Et non seulement ça, donc, évidemment, le but idéal, c'est que les sacrifiés soient contents de se sacrifier. Voilà. Alors, comme premier objectif, donc, les gens qui étaient sacrifiés dans ces conditions-là, n'avaient pas trop envie de revenir sur Terre. Donc, le premier objectif était atteint. On dépeuplait la Terre des âmes. Ces âmes ne voulaient pas revenir, c'est ça que je veux dire. Les âmes ne voulaient plus se réincarner. Donc, le but, c'est qu'il y ait de moins en moins de naissances. Bon, et physiquement, ils se dépeuplaient les uns les autres. C'est sûr qu'ils faisaient des rasiers en permanence chez tout le monde. Ici, à ce moment-là, donc là, on est à l'an zéro. À l'an zéro, donc tu vois, c'est bien loin avant Christophe Colomb. Donc en l'an zéro, va s'incarner. Donc là, ces personnages-là sont uniquement dans le monde élémentaire. Ils sont uniquement dans l'éthérique, dans l'astral. Ils ne sont pas physiques. Mais là, va s'incarner deux personnages. D'abord, va s'incarner un mage noir qui veut acquérir des puissances, une puissance maximale, de façon à complètement éradiquer toute culture terrestre. Alors, quand on tue quelqu'un, on s'accapare, si on le fait dans certaines conditions, on s'accapare des forces magiques noires, assurément, c'est de la vraie magie noire, mais on s'accapare des forces particulières. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des groupes de personnes qui pratiquent ce genre de choses. Alors, au bas étage de la société, il y a des petits groupes de malfrats, etc., des petits groupes de bandits. Si, pour rentrer dans leur confrérie, il faut tuer quelqu'un, vous devez le savoir, je suppose. Donc, on tue quelqu'un à l'aveugle pour avoir le droit de rentrer dans leur confrérie. Mais en haut de la société, il en est de même. Il en est de même. Il y a des groupes de magiciens qui sont, qui nous gouvernent, mais qui ne gouvernent pas. Ils ne vont pas aux élections, parce que disons, les élections, c'est la rigolade, c'est la pantomime, tout ça, et qui nous gouvernent réellement. Et pour pouvoir nous gouverner réellement, eh bien, il y a aussi des meurtres rituels dans certaines conditions. Donc, vous voyez, la tradition s'est maintenue, mais elle n'est pas aussi violente. Si ce mage noir avait réussi son coup, eh bien, il aurait eu une puissance suffisante pour s'emparer de toute l'humanité. Donc c'était extrêmement grave à ce moment-là. Donc s'incarne une deuxième personne. Donc là, on est deux personnes incarnées, hein, sous forme d'êtres humains, comme vous et moi. Donc, l'un qui veut acquérir un pouvoir encore supérieur avec toujours des meurtres rituels, et un autre qui veut arrêter ça. Parce que celui qui veut acquérir des pouvoirs, bon, on dépeuple la terre. Mais lui, personnellement, ne pourrait pas quitter la terre non plus s'il reste dans cet état-là. Il lui faut, si vous voulez, un ticket de sortie. Et c'est là où intervient qu'il faut, donc rituellement, tuer quelqu'un qui est d'accord. Donc là, on trouve des sujets endoctrinés spécialement, etc., qui sont d'accord. Et à ce moment-là, l'âme du sacrificateur s'accroche à l'âme du sacrifié de façon à pouvoir s'échapper définitivement de la planète. Voilà. Enfin, du plan physique, la planète, du plan physique, j'entends.
Il cherche un tremplin.
Voilà. Donc il faut trouver quelqu'un qui est d'accord. Et on le retrouve aussi dans la magie des je sais plus, je confonds toujours le nom, Mung ou je sais pas trop quoi, qui était avant le bouddhisme, voilà. Mung. Oui, voilà. Et c'était pareil. Chez eux, c'était pareil. Enfin, je reviens. On pourra en rediscuter après, mais un peu hors du sujet, mais c'était pareil. L'idée était de sacrifier quelqu'un qui est d'accord. Sinon, ça, on tue le bonhomme, ça ne sert à rien. Bon, donc, on revient ici. Donc, il y avait des sacrifices en masse et en nombre. On leur arrachait le cœur vivant. Donc, justement, on se retrouve avec le cœur et le sang, vous voyez. On se retrouve toujours... Alors, le sang nourrissait le soleil, disait-il. Il faut, donc vous voyez le lien, la parenté entre le soleil, le sang, le cœur et l'or. Parce que pourquoi l'or? Parce que leurs instruments étaient en or. Bon, ben comme l'or ne coupe pas des masses, vous devez le savoir, si vous avez un couteau en or pour couper votre bifteck, vous serez bien malheureux. Donc, ils étaient bien obligés d'avoir un truc qui coupe. Et alors, ils avaient de l'obsidienne. Alors, je vous ai amené un truc en obsidienne, mais malheureusement, il est vieux, alors il s'est effrité. Mais enfin, il fut un temps où ça coupait le papier. Bon, maintenant, ben c'est du verre, si vous voulez. L'obsidienne, c'est du verre naturel. Donc, si vous faites un truc comme ça, ben, ça se plante bien.
J'ai vu ça à la télé, ça coupe vraiment bien.
Alors, donc, il y avait des couteaux en obsidienne et des couteaux en or. Bon, je suppose que l'or, c'était pour finir le travail, si j'ose dire, parce que l'or, vous savez, c'est très mou comme métal. Mais alors là, on a la liaison entre le cœur, le sang et l'or dans cette pratique rituelle, donc d'arracher le cœur du personnage vivant, donc ça gicle de partout, et donc ces meurtres rituels se perpétuent. Donc il fallait arrêter ça. Il fallait surtout arrêter le grand magicien noir.
Pardon.
Et il fallait arrêter ce magicien noir. Et donc arrive, s'incarne un personnage humain, n'est-ce pas, aussi qui a un nom à rallonge. Utsil, appelons-le Utsil pour simplifier. Et alors donc ce Utsil, il est né d'une vierge. Donc Utsil... Il est né d'une vierge et il va s'opposer donc à ce mage noir. Allez, j'ai plus de bonne couleur. Allez, mage noir. Voilà. Voilà. Ils vont se trouver en opposition. Donc ça, c'est deux personnages terrestres. Et les autres personnages sont des personnages non incarnés. Est-ce qu'on y est? Donc comme ça, vous pourrez mieux apprécier, mieux comprendre, si vous allez au musée, etc., de voir des statues qui autrement vous disent rien, parce que bon, avec des noms à rallonge auxquels on ne comprend pas, qui variaient d'une culture à l'autre, etc., donc il ne faut pas s'y attacher exactement. Mais en gros, vous avez donc ces cinq personnages, donc le... Tao dégénéré, hein. Ici un esprit lunaire, Tetsa, qui est contre ses projets mais qui n'a pas trop de pouvoir. Par contre, Quetzal, qui lui est un serpent à plumes, vert, et deux personnages donc incarnés, le mage noir qui veut prendre toute la commande de l'humanité, et celui qui vient de naître d'une vierge, Utsil. Bon, il naît en l'an 0. Et en l'an, donc, 33, il va faire un procès public à ce magicien noir. Il va gagner ce procès et il va le crucifier. Donc au moment où le Christ est crucifié sur la croix au Golgotha en Europe, à ce moment même, il y a des contre-mystères, si vous voulez, des mystères en miroir opposés. Donc c'est le magicien noir qui est crucifié sur une croix en Amérique du Sud. Est-ce que c'est clair? Voilà, si vous voulez, le schéma général. Voilà. Le schéma général. Sinon, on ne comprend rien.
Mais c'est historique?
Oui, c'est historique.
Parce que pourquoi on ne sait pas qu'on a crucifié quelqu'un en Amérique?
Donc, voilà, si tu veux. Donc, il y a des contre-mystères. Pendant qu'il y a, donc, en Europe, le mystère du christianisme, là-bas, il y a un contre-mystère qui a pour but d'arrêter ce magicien noir. Vous voyez, les choses sont dans une balance. Voilà, ça c'est le point essentiel à comprendre.
Est-ce qu'il avait, le magicien noir, du pouvoir au Golgotha, justement, de crucifier le Christ? Est-ce qu'il a interféré?
Non, mais là, il a perdu ses pouvoirs, ce magicien noir.
Bon. Mais qu'est-ce qui a causé la crucification du Christ?
Ah ben, du Christ, c'est autre chose. Le Christ est venu pour ça, hein. Là, il est venu pour ça. Ça ne pouvait pas se faire autrement.
Ce n'était pas connecté, en fait, les deux.
Connecté dans le sens qu'il y avait une contre...
En miroir.
Voilà, en miroir. Bon.